Monsieur Fuchs, vous êtes dans la suite. Claudia Schiffer a dormi ici la semaine dernière.
Vous savez, moi, en ce moment, je dois chialer à deux longs.
Are you ready?
Sur Radio Génération 33, votre émission cinéma Movies, right, présentée par Patrick et Hervé.
RG33.
Voulez-vous nous faire l'honneur de vous joindre à nous?
Bienvenue dans Movies, l'instant cinéma sur Radio Génération 33. Pour cette cinquième édition, toujours aux manettes techniques Christophe, et à la critique Patrick et ses chroniques épiques, et votre serviteur Hervé. Au menu du jour, en guise de plat principal, nous vous parlerons de quelques films vus cette semaine, plus ou moins appréciés d'ailleurs. House of Gucci, Haute Couture, De son vivant, L'événement, Orange sanguine, ce qui fait beaucoup de choses à discuter. En accompagnement, rappel sur quelques films déjà évoqués dans les éditions précédentes et encore à l'affiche. Et au dessert, une sélection de choses pas encore vues mais qui nous intéressent, c'est notre rubrique Dans le viseur. J'allais oublier le trou normand, un petit focus sur la mode au cinéma. Et en entrée ou en pousse-café, je sais plus trop, la citation de la semaine et une rubrique qu'on avait évoquée la semaine dernière mais qu'on n'a pas eu le temps de faire qui s'appelle « La scène qui tue ». Et en apéro, un petit retour des auditeurs peut-être. Moi, je sais pas si tu en as eu Patrick, mais j'ai eu un mot gentil d'une fidèle auditrice qui me dit « La semaine dernière, j'avais fait une blague un peu pour dire « Bon, le podcast de Movies, j'espère qu'on n'est pas que deux à l'entendre. » Et elle m'a envoyé un mot en me disant « Non, non, moi je l'écoute aussi, donc on est au moins trois. » Donc j'ai trouvé ça plutôt sympathique. C'est signé 4.
Alors moi, j'ai les noms de quatrième et cinquième auditrices qui continuent également à nous écouter. Alors, ce qu'on a remarqué, c'est qu'on nous écoute souvent pendant des opérations de style repassage, ménage. Donc on a peut-être un cœur de cible là qu'on a réussi à trouver.
Bon, mais on va, ouais, nous on s'adresse à tous les autres.
Nous, c'est tout le monde.
7 à 107 ans, on va dire. Alors cette 4, elle rajoute quelque chose d'intéressant sur lequel je voulais un petit peu revenir. Elle me met dans le message, bon compris, j'irai pas voir Memoria. Alors là, Memoria, c'est le film de Apichat Pang Werazetakul, évoqué la semaine dernière. Et alors là, Kat, non, j'ai pas dit qu'il fallait pas aller voir ce film. Je veux dire un mot, je sais pas, je parle pour moi, Patrick. Moi, je me sens pas spécialement prescripteur. On a un avis subjectif sur quelques films qu'on a triés. Et je me sens pas tellement légitime pour dire allez voir ceci, n'allez pas voir cela, par exemple.
Alors on assume totalement notre subjectivité totale. Si on aime, on a envie de vous faire partager. Si on aime moins, on le dit un petit peu parce qu'on a envie de le dire. Mais au final, comme tu viens de le dire, Hervé, ce qui nous intéresse, nous, c'est de parler des choses que l'on a aimées, peut-être de vous faire découvrir des choses devant lesquelles vous seriez passé sans avoir l'idée d'aller les voir.
Bon, par exemple, on va pas parler des Bodins en Thaïlande. Je sais que c'est un film qui a un grand succès, d'ailleurs, en particulier en province. Mais moi, je sais que personnellement, je pense pas que j'irai le voir. Mais je vais pas pour autant dire n'allez pas le voir. Je pense qu'on en parlera pas trop.
Ça me rappelle quand j'étais petit et qu'on mangeait quelque chose de nouveau. Ma maman me disait « Ne dis pas c'est mauvais, dis tu n'aimes pas, mais pas dire c'est mauvais. Tu peux pas avoir des choses comme ça, toutes dites, toutes faites, et décider par toi tout seul que les choses sont mauvaises. » Là, je commence à m'embrouiller.
Donc, pour Memoria, j'y reviens parce que j'ai paru peut-être un peu ironique sur la longueur des plans. Mais en fait, c'était plus à la limite le spectateur que je critiquais qui n'a plus de patience plutôt que le film lui-même. C'est une œuvre qui peinera sans doute à trouver son public parce qu'elle est difficile. Donc, pas question pour moi de dissuader les gens d'aller le voir. Autre remarque de cette fine mouche de Kat, donc elle s'appelle. Vous n'avez pas parlé de First Cow. Première vache, je sais, c'est pas traduit, c'est First Cow. Non, Kat, on n'a pas parlé de First Cow. C'est un film de Kelly Richards, une femme qui s'appelle Kelly Richards. Il paraît que c'est très bien, en effet. J'ai eu plusieurs échos positifs, un genre de western contemplatif. Moi, je l'ai pas vu, Patrick non plus, je crois. On est passé à côté. Il y a beaucoup de choses à l'affiche et c'est vrai qu'on est obligé de faire des choix. Et puis, mon budget cinéma, je l'explose là. Bien. Alors, pour commencer, une petite citation, peut-être?
Oui, alors, une petite citation que tu m'as fait passer et qui m'a bien fait rire, c'est « Si Galilée revenait sur Terre, il s'écrierait devant une mauvaise comédienne de cinéma, et pourtant, elle tourne. »
Alors, et pourtant, elle tourne, ça me fait penser à quelque chose. Il y avait au théâtre à Bordeaux cette semaine, Philippe Torreton, qui jouait la vie de Galilée. Alors, Philippe Torreton, moi, je le connaissais au cinéma, je l'avais pas vu au théâtre, mais évidemment, c'est un très bon acteur. C'est dommage qu'on le voit pas beaucoup au cinéma. Ah, mais qu'est-ce que j'entends? J'entends le lion de la métro qui va rugir.
Comme dans un film de la métro, on voit très bien tous les détails. Les bonnes sœurs font leur numéro dans un voilier sans gouvernail. Des milliardaires américains s'en vont doucement vers le port avec des copains saoudiens qui vont très bien dans le décor. Comme dans un film de la métro, le soleil se couche sur l'eau sous l'œil des serveurs chicanos qui se marrent avec les cuistots. Des stars adorées du public traînent leur spleen intéressant vers des paradis super chics où l'on dégueule entre gagnants. Comme dans un film de la métro, les marins se perdent et se donnent pour des pin-ups assez salauds avec des yeux couleur butane. Quelques tarzans dénaturés jettent leurs cigares allumés pour mieux explorer le point G des petites jeans. Allez, allez! Comme dans un film de la métro, le soleil s'est couché dans l'eau après un dernier coup de chapeau au bateau plein de Roméo. Les rancœurs calcinés grimaces tombant en cendres dans le soir. Les jeunes filles les ramassent en souvenir dans leurs mouchoirs. Alors la nuit tombe en beauté sur les robes de taffeta des mégères apprivoisées qui vont danser le cha-cha-cha. Qui vont danser le cha-cha-cha. Qui vont danser le cha-cha-cha. Qui vont danser le cha-cha-cha.
Un gros chat. Et ce gros chat, d'ailleurs, que l'on voit sur les génériques de la Metro Goldwyn Mayer, il avait un once lion.
Ah oui, il n'y en a qu'un seul, tu crois?
Alors, il a toujours porté le même nom, mais ça, il y en a eu plusieurs. On l'appelait Léo.
Léo. Alors, comme dans un film de la Metro, c'était la vieille dame indigne de la chanson française, c'était Brigitte Fontaine en 2006 qui rendait un hommage à la MGM. D'ailleurs, les paroles, quand je les ai réécoutées, c'est pas évident que ce soit un hommage en fait. Alors pourquoi elle est là, Brigitte Fontaine? Bon, ben pour cette chanson, mais aussi parce qu'elle est apparue un petit peu sur l'écran, Brigitte Fontaine. On l'a vue par exemple dans Le Grand Soir, le film de Delépine et Kerven, avec Poulvord de Dupontel par exemple, Yolande Moreau, qui avait été tournée, je ne sais pas si tu te souviens, à Bègle ou à Villeneuve-d'Ornon. Et dans le film, elle tenait une pataterie. Elle tenait un restaurant de patates. Je pense que c'est une copine de Delépine et Kerven parce qu'elle vient de tourner un film avec lui qui s'appelle Morlaix, qui n'est pas encore sorti.
Elle est légèrement allumée quand même.
Ah oui, mais c'est ce qui fait son charme. Alors, on va parler des films récents sortis cette semaine ou il y a quelques jours. Et Patrick, depuis le temps qu'il attendait House of Gucci, il y est allé, il va nous en parler.
Alors, c'est vrai, depuis plusieurs semaines, on voyait sur les écrans, nous, les écrans de cinéma, les bandes annonces pour House of Gucci, donc film de Ridley Scott. Et bien là, cette semaine, il est sorti. J'ai été le voir, j'ai pu le voir dans une belle salle, une grande salle de Bordeaux, hein, l'UGC rue Bonnac, donc une salle à peu près de 500-600 places, donc bel écran, bien installé. Je me suis dit, tiens, là, va y avoir un bon spectacle avec, dans les rôles principaux, il y a Lady Gaga, il y a Adam Driver, il y a Jeremy Irons quand même, hein, c'est pas n'importe qui. Et puis, il y a Camille Cotin, qu'on voit comme ça.
Qu'on commence sa carrière hollywoodienne.
Voilà. D'ailleurs, ça s'en est peut-être même pas rendu compte. Un beau casting. Hein. Vraiment, quand je reviens sur le film annonce, il donnait vraiment envie d'y aller. Moi, je me disais, tiens, on va voir un truc genre à l'âge Cortez.
Et il y a Pacino aussi, tu l'as dit?
J'ai pas dit Al Pacino. Ouais. Bah, c'est vrai qu'on le reconnaît. Il a un petit peu changé, hein, ouais. Par rapport à un après-midi de chien. Il y a quelques petites différences au niveau des indications sur la balance. Bon, et là, moi, j'ai eu une très grosse déception pendant ces 2h40 de film. J'ai eu l'impression de voir un film Netflix. Voilà l'impression que j'ai eue. Alors, si on regarde au niveau des acteurs, on parlait de Al Pacino. Il en fait vraiment, mais il en fait des tonnes, voire des mégatonnes. Alors, lui encore, ça peut passer. Mais il a celui qu'il appelle son fils, qu'il appelle l'idiot. Mais il dit, c'est mon idiot, donc moi j'ai le droit de l'appeler l'idiot. Donc il est joué par Jared Leto. Mm-hmm. Je connaissais pas, hein, je l'avais pas vu dans d'autres films. Et là, il est absolument incroyable. Enfin, dans le sens, quand on dit incroyable, généralement...
C'est plutôt positif.
Oui, quoi. Là, c'est plutôt... Non, c'est pas possible. Il va arrêter de jouer comme ça. C'est hyper surjoué. Enfin, je sais pas si tu l'as vu.
J'ai la même impression, mais c'est son rôle qui est mal écrit, peut-être. Hein.
Oui, mais à un moment donné, quand même, il me semblait que quand on est acteur, on peut quand même faire passer des choses et peut-être refuser d'aller jusqu'à cet excès. Alors, Lady Gaga, qu'on avait vu dans Star is Born, bon, là, j'avais trouvé que c'était intéressant. Là, elle joue donc Patricia Reggiani, qui va être la femme de l'héritier Gucci, joué par Adam Driver. Et donc là, bien sûr, avec s'agissant de Patricia Reggiani, rien à voir, hein, avec le chanteur, elle est italienne. Mais là, tout le monde parle américain, ils n'ont fait aucun effort de mettre au moins pour donner une impression que lorsqu'on est sur Milan, que l'on parle en italien...
Il y a quelques mots d'italien.
Oui, mais là, elle a un accent italien qui est absolument... ridicule. Et il y a une scène où là, on la voit, alors sans rien déflorer du film, elle a un contrat à signer, enfin, hein, elle voit des personnes pour un certain contrat. Là, j'avais l'impression de la voir comme elle était habillée, de voir Josiane Balasco dans Gazon Maudit.
Mais elle était déguisée pour cette scène, c'est pour ça.
J'ai pas vu ce deuxième degré. Quand elle joue le rôle dedans, là, elle est ce rôle. Elle est vulgaire. Bon, Adam Driver, t'en reparleras peut-être. Pour moi, bon, c'est le seul quand même qui sort son épingle du jeu. Bon, dans le film qui dure 2h40, il y a un moment donné quand même, j'ai pas trop bien compris le fait qu'il change d'avis sur ses relations amoureuses, hein, sans dire plus là non plus.
Ah ben, voilà. Des fois, il y a pas d'explication, ouais. Tu sais.
Bon, en tout cas, il est bien habillé. Moi, ça, au niveau vestimentaire...
On n'en attendait pas moins pour un film sur Gucci.
Gucci. Et alors aussi, pour nous montrer, parce qu'on ne comprend rien, pour nous montrer qu'on est bien en Italie, alors dès qu'on est en Italie, ça commence par des scènes jaunâtres, pour bien montrer que c'est plombé de soleil, et que là, attention, vous avez bien compris, vous êtes à Milan. Jeremy Irons, alors je ne sais pas si ça t'a fait la même impression, j'avais l'impression de le voir sortir de la famille Adams.
Oui, c'est vrai, avec des cernes très grandes.
On a compris qu'il est malade, on a compris qu'il est malade et qu'il va lui arriver certainement quelque chose. Et puis, il y a Camille Cotin, là, qui n'a pas compris, elle se dit, tiens, j'arrive dans le film, elle est aussi étonnée que le rôle qu'elle est obligée de jouer. Là aussi, quand même, c'est celle qui joue connasse. Cotin, elle a du caractère.
Et dans 10% aussi.
Oui, dans 10%, bien. C'est une actrice qui a du caractère. Là, elle est complètement lessivée, effacée, elle n'apparaît pas.
Ouh, donc je pense que vert, là, notre camarade Patrick.
Bon, je pense que tu as compris que j'ai pas tellement apprécié. Il paraît qu'il y avait Ridley Scott, il a dû faire ça en télétravail, je sais pas, mais je suis pas sûr qu'il était vraiment sur...
Bon, moi je trouve que c'est vrai que c'est un film, on va dire, un peu vain, mais c'est sur un monde très vain finalement. Hein. Et il paraît qu'il tenait beaucoup au projet Ridley Scott. J'ai lu que le projet, le scénario est passé de main en main pendant une dizaine d'années. Bon alors, moi je trouve quand même que la caméra reste élégante, hein. Elle virevolte dans ce monde d'appareils, de gros sous, mais c'est vrai que ça, moi aussi ça m'a paru moyennement intéressant. Hein. Il y a un côté un peu caricature parfois du Parrain ou des Sopranos, notamment par le Pacino que tu disais. Je trouve que c'est quand même un peu sauvé par les deux acteurs principaux. Tu as évoqué Lady Gaga en Patricia Reggiani, elle a vraiment quand même de l'abattage.
Et dans la première partie, dans la deuxième.
Ah oui, c'est vrai. Mais et puis Adam Driver en Maurizio, lui est héritier de la maison, cultivé, grand timide, puis de plus en plus arriviste à la fin. Je trouve qu'il est quand même impeccable comme d'habitude. Bon, Camille Cotin, t'es un petit peu vache, comme je trouve qu'elle se débrouille pas mal. Bon, alors vous avez compris que on a apprécié moyen, mais il faut pas que ça vous empêche d'aller le voir si vous êtes intéressé. J'ai un petit mot sur Lady Gaga. Je me suis inquiété de sa carrière, ou plutôt je me suis enquis de sa carrière. Et Scoop, c'est un pseudo, Lady Gaga. Et
ah
oui,
bon?
Ah oui. C'est tiré de la chanson de Queen, une chanson de Queen qui s'appelle Radio Gaga, que c'est parce que Queen a fait mieux d'ailleurs. Et son vrai nom, tu sais, c'est Stéphanie Johanna Angelina Germanotta. Donc elle est d'origine allemande. Hein, Germanotta, c'est allemand sans doute. Donc elle, je pense qu'elle a encore son accent italien, mais elle le force énormément dans le film. Multi-artiste, hein, on la connaît comme chanteuse d'électropop. Moi, je sais que c'est pas trop ma tasse de thé. En tout cas, elle vend des bracelets de disques. Actrice, donc, aussi.
J'avais compris, des bracelets, je comprends.
Des bracelets. Ouais. Et plutôt excentrique, elle joue beaucoup avec ça. Moi, je l'ai vu une fois, une image. Elle avait une tenue en viande, elle avait des carpaccio, une robe au carpaccio. En tout cas, c'est une artiste qui maîtrise beaucoup son image. Multi-activiste, assez engagée, sida, homophobie, Alzheimer, déforestation. Elle est contre, hein. Elle est contre tout ça. Hein. Bon, je suis un peu ironique, mais c'est vrai que les people américains, ils ont plein de causes en général. Mais d'après un sondage que j'ai réalisé sur une personne, elle est plutôt crédible et respectée chez les plus jeunes. On a pu la voir dans des séries télé, mais elle a été révélée en effet au cinéma, tu l'évoquais, avec le remake pour la troisième fois de Star is Born, en français tu disais Une étoile est née, en 2018 avec Bradley, et avec Bradley Cooper. C'est le troisième remake
d'Étoile est née. Oui, la première c'était
Il y avait
de Q-Core.
54, Judy Garland. Le deuxième, c'est Barbara Streisand, en 76. Oui. Du coup, moi, je connaissais l'histoire d'apprentissage, romance, comment une petite chanteuse devient une superstar. Et du coup, je ne suis pas allé le voir avec Lady Gaga là-dedans.
Mais elle était bien. Elle était bien.
Grand succès public et critique. Hein. C'est avec House of Gucci, c'est sa deuxième, disons, grande apparition dans un film hollywoodien. Elle gagne des galons au cinéma et je pense qu'on risque de la voir assez souvent au cinéma, peut-être par la suite. Alors, tant qu'on parlait de mode, on pourrait parler d'un autre film qui parle de mode, mais alors dans un ton très différent. Ça s'appelle Haute Couture. C'est le deuxième film d'une écrivaine, scénariste, romancière aussi, je crois, qui s'appelle Sylvie Ohayon. Elle n'est pas du Hayon, hein. Alors ça, c'est une blague que nos auditeurs du Luxembourg et du monde entier ne comprendront pas. Le Hayon, c'est une ville.
Bon, cherchons.
Alors ce film est sorti il y a 15 jours et il est un peu passé sous nos radars au début, peut-être à cause du nombre important de sorties.
J'ai eu de bons retours, hein. J'ai eu plusieurs amis qui l'ont vu, qui m'ont dit que c'était intéressant.
Ah, ben moi j'ai été plutôt agréablement surpris, c'est l'autre versant disons des grandes marques de haute couture, très loin du côté glamour et gros sous de Gucci. On voit l'aspect artisanal du métier, de la mode plutôt que le côté business. Alors dans ce film haute couture, donc on suit deux personnages principaux et leurs relations, deux femmes pas faites a priori pour se rencontrer, car elles appartiennent à deux milieux vraiment différents. L'une est campée par Nathalie Baye, Elle est couturière en chef d'un atelier chez Dior. Plutôt solitaire, toute vouée à son travail, et elle prépare la dernière collection Dior avant sa mise en retraite, qu'elle ne souhaite pas trop apparemment. Hein.
Ouais, c'est la question que je voulais te poser, ça se passe donc...
C'est chez Dior.
Oui, mais non, à quel moment donc?
Ah ben c'est contemporain, c'est oui, en oui. ce moment. Elle va prendre sous son aile comme apprentie une jeune fille de banlieue, jouée par, je ne connaissais pas cette jeune fille qui est très bien, Lina Koudry, qui ne fait pas grand-chose à part voler dans le métro et s'occuper de sa mère malade. Alors évidemment, c'est le clash des milieux... et des valeurs entre ces deux femmes qui se rencontrent fortuitement, et leur rencontre est d'ailleurs assez drôle. Donc film gorgé de bons sentiments, de chaleur humaine, mais bon, ça c'est plutôt bien. Bon, mais tout est un peu surligné, cousu de fil blanc. Voilà, je l'avais préparé.
C'est facile ça aussi.
Alors c'est un conte de fées contemporain. J'ai trouvé un autre titre au film, c'est Cosette devient Cousette. Ça aussi, je l'ai préparé. Bon. Le thème principal du film, quand même, ça me paraît être la filiation. Il y a beaucoup de rapports mère-fille dans le film, et ça, c'est intéressant. J'ai trouvé que c'était un peu tiré par le bas, par une bande musicale un peu nunuche, on va dire, variétoche, qui dessert le film. Mais c'est rattrapé par l'interprétation donc, des deux personnages principaux et des seconds rôles. Nathalie Baye, hein, tu l'as vu peut-être récemment, elle est émouvante. Même avec son visage, je trouve qu'il a un peu souffert de la chirurgie esthétique quand même. Mais ça donne un côté tragique et assez émouvant à son personnage, je trouve. Donc voir l'envers du décor, la préparation des collections, les petites mains, etc. Ça, c'est toujours très intéressant. Donc pour moi, dans le match Gucci-Dior, avantage Dior, hein, plus modeste et moins clinquant. C'était Teenage Kicks, The Undertone. Ça date de 78. C'est tiré de la bande originale du film Les Magnétiques, dont on a parlé la semaine dernière. Donc un hymne punk qui parle de montée d'adrénaline adolescente. Du punk mélodique quand même. Hein. Je trouve que ça s'écoute mieux que Sex Pistols ou des trucs comme ça. Dans le film, ce morceau, il est important. Si vous allez voir, vous verrez, parce que le jeune, il connaît pas tellement l'anglais, mais il connaît que les paroles de cette chanson. Et il s'occupe d'une radio, et à un moment, il donne une dédicace de cette chanson à sa chérie, mais il la mélange avec d'autres chansons, avec le premier pas de Claude-Michel Schoenberg. Donc ça donne un mélange assez intéressant. Alors maintenant, on va vous parler d'autres films qu'on a vus cette semaine. Enfin, moi, je l'ai pas vu, Patrick, mais tu veux nous parler de son vivant.
Oui, de son vivant. Donc là, on redevient un peu plus grave. On se permet moins de choses avec ce film. Donc Benjamin, 37 ans. Quand on lui demande sa profession, quand il s'enregistre à l'hôpital où il va, il dit qu'il est acteur. Acteur raté. Puis enfin, à la fin, il se reprend, il dit bon, je suis professeur de théâtre. Bon, quand même. Hein. Benjamin est malade. Il est en consultation, on le voit, chez le docteur Aidé, qui est joué par un vrai professeur, le professeur Sarah. Et là, Benjamin, il est accompagné par sa mère, Cristal, qui est interprétée par la grande Catherine Deneuve. Là, le médecin va être clair, c'est un médecin qui prône la vérité au patient. Donc il donne le nom exact de ce qu'a Benjamin. Benjamin a un cancer du pancréas stade 4 incurable. Et pour bien préciser, pour bien dire les choses, il lui rajoute bien qu'il n'y a aucune, il rajoute bien l'explication de ce qui est incurable, il n'y a aucune possibilité de guérison et que son espérance de vie sera entre 6 et 12 mois. Voilà le résumé du film. Donc on va, au cours de ce film, suivre les saisons et accompagner Benjamin. Tout le film, là, je viens de résumer ce qui se passe dans ce film. Donc ça va être cet accompagnement. Alors, j'ai plus envie de parler de l'interprétation. Le rôle principal, Benjamin, c'est Benoît Bagimel, qui, c'est pas qu'anecdotique, mais pour rentrer dans la peau du personnage, un peu à style actor studio, il a perdu beaucoup de poids. J'ai cru lire que, peu importe le nombre de kilos, mais il a vraiment fait un gros travail là-dessus.
Par rapport à Amant ?
Oui, c'est ce que j'allais dire. Ayant vu la même semaine deux films avec Benoît Magimel, ou dans celui d'Amant, donc là, il a retrouvé une taille où il y a peut-être plusieurs X. Il est vraiment. Malheureusement, dans le personnage avec ce visage très, très émacié. Benoît Magimel, là, me surprend agréablement sur ces deux films, complètement différents, des interprétations complètement différentes, des rôles complètement différents. Mais il y a des réalisateurs, et là en plus, enfin des réalisatrices en l'occurrence, Garcia et Berco, et quand on sent qu'il est poussé par des réalisateurs, des réalisatrices, il peut devenir très grand. Alors que dans d'autres films, on a un peu l'impression qu'il est là un peu pour...
Oui, puis il avait une période où il était complètement effacé. Je pense qu'il a eu une période de sa vie difficile pendant quelques années. Hein.
Oui. Ça, c'est dans le film, je me souviens de la phrase. Lorsqu'on perd ses parents... plutôt jeune, on dit qu'on devient orphelin, mais quand on perd un enfant, il n'y a pas de mot, il n'y a pas de mot qui existe pour qualifier cet état. À un moment donné, c'est ce que dit Cristal, la mère, donc Catherine Deneuve. Une fois de plus, hein, Catherine Deneuve, là aussi, montre que c'est une grande actrice. Alors, là aussi, au niveau, j'aime pas trop le mot anecdotique, mais je préfère plutôt pour information, pendant le tournage du film, elle a souffert d'un AVC. Et heureusement, entre guillemets, que ça se passait dans un milieu médical, si bien qu'elle a pu être prise à temps. Et le tournage n'a été, entre guillemets, interrompu que quelques mois, et elle a pu reprendre. Sans qu'on voit dans le film...
De changement.
Oui, puis bon, dans le film, on ne sait pas quels sont les moments qui ont été tournés avant et ceux qui ont été tournés après. Alors, toujours dans l'interprétation, on a Cécile de France. Cécile de France, là, qui interprète une infirmière. Infirmière qui est là pour accompagner les malades. Elle parle très peu, mais vraiment très peu, mais elle a une communication extraordinaire par les expressions qu'elle a sur le visage. Elle est d'une expressivité assez étonnante. Alors, on l'avait déjà vu assez remarquable, je trouve, en tout cas pour moi, dans Les Illusions perdues. Et là, une fois de plus, Cécile de France nous montre que c'est une grande actrice. Et enfin, dans l'interprétation, il y a le médecin, hein, plus vrai que nature, hein, puisque je l'ai dit tout à l'heure, il est joué par un véritable professeur. Alors, c'est un professeur qui est, donc, comme on le dit, oncologue, donc spécialiste du cancer, mais dans un hôpital américain. Et j'avais entendu sur France Inter, dans une interview du matin avec Léa Salamé, où il nous expliquait toute sa façon de fonctionner, l'approche qu'il a avec la maladie et avec les patients. Et en fait, c'est tout ce qu'on retrouve, dans le film. Alors là, on est vraiment loin de ce qu'on avait pu voir, par exemple avec La Fracture, où on était dans un hôpital en plein désarroi avec les manifestants aux gilets jaunes.
Mais avec la bienveillance
avec une bienveillance, mais où on se rendait compte que ce qui lui manquait le plus, c'était le temps. Alors que là, on est dans une clinique, dans un hôpital où on voit que le luxe, c'est d'avoir du temps et de pouvoir accompagner tous ces malades dont on sait que pour certains, il va s'agir véritablement d'un accompagnement vers la fin de vie.
Mais c'est une des critiques que j'ai lues de ce film, que cette attention était peut-être un peu idéalisée par rapport à la réalité de ce qui se vit vraiment. Le monsieur que tu dis qui est médecin, il est médecin dans un hôpital chic à New York. Oui. Hein, il est pas, donc c'est peut-être pas le tout venant des services d'oncologie français. Je sais pas.
C'est le petit bémol que je voudrais apporter par rapport à ce film où pendant le film, il est à peu près sûr qu'on ait la larme à l'œil. Enfin, je veux dire, c'est question. C'est vraiment très émouvant comme film. Alors, bien qu'Emmanuel Berco ait dit c'est une ode, c'est positif et tout, bon, il faut quand même être dans des bonnes conditions pour aller voir ce film. Voilà, donc moi c'est quelque chose que j'ai envie de conseiller à nos auditeurs, te conseiller puisque tu ne l'as pas vu. Faut ça, on sait, dès le début, tout le monde connaît le pitch, quand on va le voir, on sait de quoi on va parler. Pour moi, c'est intéressant. Dernière petite info que j'ai pu glaner, Emmanuel Berco a réalisé les quelques épisodes de la série 2 de En Thérapie, ouais. La série. Voilà ce que je peux dire de ce film, je rappelle, donc de son vivant, Emmanuel Berco.
Bon, alors un petit mot sur un film que j'ai vu déjà il y a quelques temps, mais j'ai pas eu le temps d'en parler la dernière fois. Ça s'appelle Orange Sanguine. C'est le deuxième film d'un metteur en scène de théâtre qui s'appelle Jean-Christophe Meurice et sa compagnie s'appelle Les Chiens de Navarre. Alors, on peut appeler ça un film à sketch, hein, mais avec des histoires qui se croisent peu. Alors, ça se veut une comédie, on va dire, politique, et c'est vrai qu'il y a des moments assez drôles. Délibération de jury d'un concours de rock, discussion politique dans un cabinet ministériel où les politiques là sont bien allumés, groupe de jeunes filles qui parlent sur la sexualité. Donc tout ça, ça fait des sketchs qui sont plutôt plaisants, mais ça se gâte en cours de film. Et là, j'aurais aimé être prévenu parce qu'à moitié du film, on tombe dans un film d'horreur en fait. Ça devient de plus en plus glauque, de plus en plus complaisant dans la violence physique et dans la violence psychologique, avec des scènes très graphiques, hein, de viols, d'abus divers. J'ai pensé à Hannibal Lecter, là, tu te souviens? Ah oui, oui, Hannibal Lecter, il y a une scène où, je crois, le méchant, il fait manger la cervelle de la personne. Là, c'est pas la cervelle, c'est autre chose, mais c'est pour vous dire que, je veux dire, ça m'a vraiment étonné parce que satire politico-sociale d'ailleurs, mais d'accord, mais gâchée par un espèce de volonté d'aller plus loin mais dans le trash.
Ça arrive comment dans le film ? Ça ne peut pas arriver.
Si, c'est une vengeance, donc des scènes de torture, des choses comme ça. Alors donc moi j'ai pas quitté la salle parce que mais il y a une époque où j'aimais bien ces films d'horreur tout ça. Ah oui je te jure, mais maintenant je vais plus les voir et donc j'ai été surpris de trouver ça. Je trouve qu'à côté, les vignettes de Groland, par exemple, sont très élégantes. Donc vous êtes prévenus, il y a le côté positif, il y a des sketchs plutôt drôles avec des personnages drôles, mais il y a ça à moitié du film. Donc voilà ce que je voulais dire sur Orange Sanguine.
Les acteurs, tu nous as dit ça ?
Les acteurs, il n'y a pas d'acteurs. Ah si, il y a un des déchiens, je ne sais plus son nom, Didier Saladin, je crois, par exemple. Il n'y a pas trop d'acteurs. Si, il y a celui qui est assez drôle, c'est Podalides, qui joue le rôle d'un conseiller politique qui fait son numéro, qui est assez drôle.
Il n'y avait pas Blanche Gardin, non ?
Blanche Gardin, qui a une courte scène, mais il y a un côté sketch. Elle fait son sketch pendant 3 minutes, en fait, hein, et on ne la voit plus après. Voilà, c'était Orange Sanguine de Jean-Christophe Meurice. Maintenant, Patrick, tu voulais nous parler de l'événement.
Oui, il y a des semaines comme ça où c'est pas forcément facile.
Ah, t'as choisi des films pas faciles.
Oui, c'est pas la semaine quoi, comme on dirait. Ça me rappelle, c'était quoi c'était Y a-t-il un pilote dans l'avion quand il dit oui, c'était pas la semaine pour arrêter tel truc. Là, l'événement. Donc un film réalisé par Audrey Diwan. Alors, elle, c'est une jeune réalisatrice, hein, puisqu'elle a la quarantaine. Elle est autrice, hein, elle avait fait son premier roman, c'était en 80. Non, c'était pas en 80, elle est née en 80, et son premier roman, c'était La fabrication d'un mensonge. Alors, des études de journalisme, et elle a d'ailleurs travaillé dans des revues style glamour, styliste, donc elle a travaillé dans ce monde. On voit qu'elle est qu'elle a dû être passionnée très vite pour le cinéma, et c'est au travers de rencontres professionnelles qu'elle a pu aborder le cinéma, et en l'occurrence, vu ses capacités d'écrivaine, eh bien, elle a été vers le scénario. Elle a rencontré Cédric Jiménez, qui va d'ailleurs devenir son compagnon, avec qui elle va collaborer, hein, sur l'ensemble de ses films. Alors, je vais y arriver, pour dire qui est Cédric Jiménez, il y a peu de temps, c'est Bac Nord. Donc Bac Nord,
pas vu.
Moi non plus. Et il y avait eu aussi qu'il y a un peu plus, il y a 6 ou 7 ans, il y avait eu la French qui se situait sur Marseille.
Mais là, on est très loin du monde de l'événement, hein.
Oui, on en est très loin. Donc elle a commencé en 2018. C'est en 2018 qu'elle a commencé un premier long métrage que je n'ai pas vu, qui s'intitulait Mais vous êtes fous. Là, on est en France, dans la région, on le découvre, hein, c'est pas explicitement indiqué, mais c'est au travers des dialogues que l'on se rend compte qu'on est dans la région d'Angoulême, et il y a aussi une petite incursion sur Bordeaux. On est en 63, d'ailleurs ça me rappelle ce qu'on avait dit dans une première émission avec Diabolomante. Là on est avec des jeunes filles plus vieille, mais on retrouve le même prénom, puisque c'est marrant, c'est une coïncidence, mais la jeune fille que l'on va suivre dans ce film s'appelle Anne. Elle a la vingtaine, puisqu'à un moment donné, on lui demande pas sa profession comme dans le film de tout à l'heure, mais là on lui demande sa date de naissance, elle dit 1940, donc 1940, 63, et donc c'est une jeune fille qui a une vingtaine d'années, 22, 23 ans, et elle est étudiante, et à cette époque il y avait une sorte d'année préparatoire à l'entrée pour la faculté, c'est là qu'on la trouve. De ce que l'on voit, c'est une C'est une élève brillante et qui est promise à une belle carrière. Et elle tombe enceinte. C'est un mot toujours tombé, toujours un peu bizarre. On tombe malade, on tombe enceinte. Il y a une certaine brutalité. C'est comme un événement auquel on ne s'attend pas forcément. On trébuche quand on tombe enceinte. Alors, Anne est quelqu'un de très déterminé. Elle ne souhaite pas garder cet enfant, elle souhaite avoir une carrière, et si elle se retrouve avec un enfant, dans l'époque 1963, fille-mère, alors là, c'est quelque chose d'assez compliqué.
Et le père potentiel, on le voit ?
Le père, on va le voir en filigrane. Il va apparaître, étonné de ce qui est arrivé. On sent très bien que c'est pas forcément son problème, c'est plus pour lui, c'est un problème et ce n'est pas son problème. On est en 63 là, on est 12 ans avant Giscard et son gouvernement qui va faire adopter au travers de et porté par Simone Veil la loi qu'on va appeler la loi Veil, qui va dépénalisé, hein, puisque on était pénalement suivi en cas d'avortement, qu'on subisse l'avortement, que l'on fasse l'avortement, qu'on soit médecin ou qu'on soit non-médecin. En 63, quand on veut avorter, il y a les solutions, c'est lié à sa fortune, grosso modo. Si on en a, on va pouvoir aller à l'étranger. Si on en a un peu moins et qu'on a un réseau, on va essayer de voir si on ne trouverait pas dans le corps médical quelqu'un qui voudrait bien vous aider. Et la troisième, c'est ce qu'on appelait les faiseuses d'anges, avec les aiguilles à tricoter.
Les dangers.
Avec les dangers absolus.
Tu n'as pas parlé d'Annie Ernaux, tu vas en parler ? C'est quand même tiré de plutôt quelque chose d'autobiographique d'Annie Ernaux. Diwan, elle a beaucoup aimé le roman. J'ai lu une interview d'elle et en fait, elle s'est même approchée d'Annie Ernaux. Elles ont un peu discuté et Annie Ernaux a validé, disons, son scénario à partir de son livre qui est assez autobiographique.
Donc je n'ai pas lu le
moi
livre,
non plus,
je n'ai
plus.
Vu que le film. Anne, elle n'est pas fortunée, hein. Donc et comme elle considère que c'est son problème, d'ailleurs, elle n'en parle à personne, elle n'en parle pas à ses parents. Alors ses parents, on les voit là aussi, c'est en fond. Ils tiennent un petit commerce et on la voit de temps en temps quand elle n'est pas en cité universitaire, elle rentre mais elle ne dit rien. Elle ne dit rien à ses parents. Ses parents la font suivre des études et donc pensent qu'elle va pouvoir réussir sa vie. Donc elle veut pas les embêter. Et puis on sent vraiment bien que c'est sa responsabilité. Bon, alors. Le chemin va être forcément compliqué. Quand je parle d'un chemin, on pourrait plutôt parler d'un calvaire, hein, que va suivre Anne. Elle va devoir tout affronter seule, puisque on l'a évoqué. Le papa, lui, il a pris ses responsabilités. Sa responsabilité, c'est il ne fait rien et il veut pas surtout que ça se sache pour que ses amis. Ben, voilà, c'est vraiment.
C'est la masculinité des années 60. On ne sait pas si ça a changé depuis. Je ne sais pas.
Alors, c'est vrai que quand on voit ce film-là, je pense que quand nous, en tant que masculin, on voit ce film, on se sent quand même pas très glorieux, hein, quand on voit nos confrères, mais enfin les masculins de ces années-là. Donc, c'est un sujet. Quand même très grave. La réalisation là ne ménage rien, hein. C'est-à-dire que on a des scènes.
Oui, c'est ça qui m'a dit très réaliste. Dans la bande-annonce.
Alors très réaliste au niveau de la bande son.
D'accord.
Au niveau, ça se fait essentiellement au niveau du son. On va pas être dans un voyeurisme qui n'aurait pas grand intérêt. Bon, tout est, on sait ce qui se passe. On entend ce qui se passe.
Actrice a l'air très bien.
Alors la jeune actrice, oui, c'est une actrice que je ne connaissais pas. C'est Anna Maria Vartov. Ptolémée, donc d'origine, elle est franco-roumaine. Moi, je ne l'avais jamais vue au cinéma. Alors, il y a un truc qui m'a intéressé, point de vue technique, c'est que le film, au niveau du format, il est en format 1.37. Alors, 1.37, c'est
la... Tu aimes bien les formats, toi.
Oui, oui,
tu
oui.
Tu m'as déjà fait le coup de fois. Vas-y, raconte.
Parce que c'est un passé, vraiment dans le passé, je me suis intéressé...
Alors, le format,
c'est un format très carré. D'accord. Donc, pour être simple, quand on dit d'un rapport 1.37, c'est le rapport de la largeur sur la hauteur. Donc 1.37, c'est presque un rapport carré. C'était le standard du cinéma à partir de la création du cinéma jusque dans les années 50-60. Et quand on a voulu concurrencer la télévision, on a élargi. Mm-hmm. Quand tu vas au cinéma maintenant, c'est le 16/9. Donc le 16/9, le rapport, ça fait grosso modo
ça fait
1.77 de rapport. Et puis on a ce qu'on appelait le scope, le format scope, même si plus rien n'est tourné en réel scope, parce que là aussi, pour entrer dans les détails, le scope, c'est une lentille particulière. On est dans du 2.35. J'arrête
et là. Qu'est-ce qui se passe comme format?
Donc dans ce format très carré, ça nous montre l'époque.
D'accord.
Je veux dire, comme ça a été fait aussi dans The French Dispatch, je trouve de plus en plus intéressant que les réalisateurs s'intéressent à ça. C'est-à-dire que le format fait partie aussi du film et dit des choses. Bon, pour moi, le film, très fort sur la solitude, le courage que devaient avoir ces femmes, et c'est quand même pas une époque si lointaine, où là, il y avait quand même une justice des hommes, enfin une justice des masculins, qui décide de tout à la place des femmes. Il y a quelque chose dans le film dont je me souviens, c'est le médecin, un médecin qui est quand même assez empathique. Il y en a plusieurs, il y en a d'autres qui le sont beaucoup moins. Mais il y en a un qui est assez empathique et qui lui dit « Si vous avortez clandestinement, ce qui est quand même un peu un pléonasme à l'époque, et que ça se passe mal, vous allez vous retrouver à l'hôpital. Et là, il y a deux possibilités. Soit vous tombez sur un médecin compréhensif qui va devoir noter la raison pour laquelle vous êtes rentré et qui mettra fausse couche. Mmh. Et la femme, au moins ne sera pas poursuivie. Si par contre il indique avortement qui s'est mal terminé, une fois que la femme sera remise sur pied,
il y a justice.
Et c'est la justice. Voilà. Il y a une autre actrice aussi qu'on avait vue, qui s'appelle Louana Bajrami. Qui joue une de ses amies, on l'avait vu avec Catherine Deneuve dans le film Fête de famille de Cédric Kahn. Il y a Pio Marmaille qui
est
il est prof. D'ailleurs, je l'avais même pas reconnu au début, tellement comme je l'avais vu la dernière fois dans la fracture. Là, rôle complètement différent. Et puis la mère, j'ai pas dit qui joue la mère, c'est Sandrine Bonnaire.
Ah oui.
C'est Sandrine Bonnaire qui a dû faire, comme on voit souvent, avec la participation amicale de Sandrine Bonnaire. Là, elle dit trois phrases.
Dans la bande-annonce, j'ai vu elle fiche une claque à sa fille qui est impressionnante.
Oui. mais Sandrine Bonnaire, petit rôle, mais grande présence.
Pessac à Bordeaux ou aux quatre coins de la Gironde, une seule adresse, www.rg33.fr.
Patrick et Hervé, Movies.
Alors, vous n'étiez pas dans l'heure bleue sur France Inter. Hein. Vous avez peut-être reconnu le générique de Laura Adler, son émission, mais nous, c'est une autre version. Laura Adler, hein, elle m'a dit qu'elle écoutait notre émission, en fait. Ça la détend le mercredi, elle entend. Et d'ailleurs, elle te passe le bonjour, Patrick. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on vient d'entendre ? On vient d'entendre une version d'un morceau qui s'appelle « Veridis Quo ». De Daft Punk, à l'origine 2003, Veridis Quo. Il y a un jeu de mots, hein, ça te fait penser à Quo Vadis peut-être, hein. On parlait de la MGM, c'était un péplum de je sais pas, des années 50. Et là, il y a un jeu de mots sur le titre, Veridis Quo, Quo Vadis. Et en fait, c'est Veridisco. Veridisco, ah oui, oui, je te jure, hein. Et alors, c'est intéressant parce que...
C'est là qu'on voit quand même que les émissions sont... Vachement préparé.
Et attends, t'as pas tout vu. Le titre est tiré d'un film, de leur disque, qui s'appelle Discovery. Discovery, Very Disco, oui. Alors, ce morceau, il est intéressant aussi parce que il a servi de musique de film, un dessin animé, ce qu'on appelle un animé, un manga, qui s'appelle Interstellar 5555. En fait, tout l'album de Daft Punk, qui s'appelle Discovery, a été tourné comme ça en manga. J'ai essayé de regarder le début et j'ai arrêté parce que moi, les animés, je... Et autre chose, cette musique également, peut-être vous avez vu ça, le duo, donc, Daft Punk, le duo versaillais, ils ont fait leur revoir sur ce morceau avec un clip où ils ont passé ce morceau et ils se font exploser dans le morceau. Et j'ai trouvé ça plutôt assez émouvant comme épitaphe. Alors maintenant, après la musique, on va parler de quoi ? On va parler, il y avait, puisqu'on a vu deux films sur la mode, House Gucci et puis Haute Couture, dont on a parlé tout à l'heure, je me suis dit, tiens, un peu comme toi qui avais recensé les films sur les amants, hein, je me suis dit, tiens, si on regardait un petit peu comment la mode est traitée au cinéma. Moi, la mode m'intéresse moyen, mais le monde de la mode vu par le regard cinématographique, pourquoi pas. Alors, à ce propos, hein, exposition, on l'avait déjà dit, à Paris, à la Cinémathèque, parrainée par Jean-Paul Gaultier, sur mode et cinéma. Et par exemple, Jean-Paul Gaultier, il a dit moi, c'est en voyant par exemple le film Falbala,
ouais, de Jacques Becker.
De Jacques Becker, que j'ai eu ma vocation. Jacques Becker, je crois que tu l'as vu à sa sortie en 1945, donc
Non, à la limite, j'aurais pu voir le dernier film qu'avait fait Jacques Becker qui s'appelait le Trou.
Ouais, le Casque d'or aussi, Jacques Becker, le père, ouais. Jacques Becker, hein. Et tiens,
de Jean Becker, le père.
Ouais. Alors, autre chose, Les Amants de Montparnasse, c'est un film de Becker aussi. Est-ce que tu l'avais cité dans ta recension des
forcément,
Amants?
Forcément, j'avais fait toutes les gares, j'avais fait tous les endroits qui pouvaient exister.
Alors, je vais passer en revue un peu quelques histoires cinématographiques sur fond de mode. Alors, bien sûr, il y a les biopics, c'est-à-dire les biographies filmées. Chanel en a eu droit à plusieurs, hein, interprétées par Marie-France Pisier, Shirley MacLaine.
Toutou.
Anna Mougalis, Keira Knightley, et en effet, la dernière, c'est en 2009, c'était Coco avant Chanel de Anne Fontaine avec Audrey Tautou. Yves Saint Laurent a eu deux biopics.
Coup sur coup. L'un avec Ninet.
Ouais. 2014-2015. Celui de Jalil Lesper, c'est avec Pierre Ninet. L'autre est de Bertrand Bonello et c'est Gaspard Ulliel qui faisait Pierre Berger.
Alors qui fait aussi de la pub pour les parfums. Aussi.
Non, il faisait pas. Oui, c'est vrai. Non, il faisait pas Pierre Berger. Il faisait Yves Saint Laurent. Je parlais de Pierre Berger parce que le premier film a été adoubé par Pierre Berger, l'ancien compagnon de Yves Saint Laurent, gardien du temple. Hein. Mais par contre, il a essayé de faire interdire. J'ai vu le deuxième qui devait pas avoir grâce à ses yeux. Après Chanel, Saint Laurent, je crois qu'il y a une série ou c'est un film sur Gianni Versace qui a été peut-être sur Netflix, hein. Fin aussi sordide que celle de Gucci, hein, assassiné aussi. Et celui, il y a les films qui parlent du métier. Et là, on fait référence à Haute Couture. Et là, je voulais citer un autre film que j'ai vu exprès pour cette émission, Patrick. Oui, oui, on m'en avait parlé à un moment. Ça s'appelle Phantom Thread, le film fantôme de Paul Thomas Anderson. C'est celui qui avait fait There Will Be Blood. Je ne sais pas si ça te dit quelque chose. On suit donc un grand couturier anglais qui a des rapports un peu conflictuels et étranges avec son modèle. Donc là aussi, on voit le travail vraiment de la couture. C'est vraiment intéressant. Ça date de 2017. Le fil fantôme. Pourquoi le film s'appelle comme ça? Parce qu'il paraît que les couseuses, quand elles rentrent chez elles, elles travaillent encore dans leur tête et elles continuent de coudre. Alors, je me dépêche parce qu'on me fait signe. Comédie qui se moque du milieu de la mode. Prêt-à-porter de Robert Altman. Tu connais le titre en anglais? Prêt-à-porter. Alors, tu es content, hein, parce qu'on a gardé le titre français. C'était en 94. Fashion Week à Paris, casting de luxe. Écoute-toi ça. Julia Roberts, Kim Basinger, Anouk Aimée, Sophia Loren, Lorraine Bacall, Mastroianni, père et fille, Rupert Everett, et moins glamour, Michel Blanc et Jean Rochefort. J'en vois qui laissent leur téléphone ouvert, c'est très bien. Autre comédie, Le Diable s'habille en Prada. Tu l'as vu ça avec Meryl Streep en 2006?
Ah oui, oui, oui.
Elle fait une directrice de magazine super drôle, tyrannique. Zoolander, grosse farce dans le milieu des top modèles masculins avec Ben Stiller et Owen Wilson qui sont en concurrence pour le défilé des couvertures. C'est vraiment très drôle. Alors, j'ai pas tout cité, hein. Pauly Magou, ça c'était un photographe réalisateur qui s'appelait William Clay en 66. Satire de la pub, de la mode. Un film qui a eu le prix Jean Vigo. Et est-ce qu'on pourrait citer La vérité si je mens? Ça se passe dans le milieu du prêt-à-porter du sentier aussi, hein. J'ai pas épuisé le sujet, hein. Donc ne nous appelez pas pour dire oui, tel film n'a pas été montré. C'était juste une petite sélection. Alors on va peut-être redire un mot des films qu'on soutient peut-être, qu'on trouve intéressants.
Oui, alors pour la troisième fois, je vous conseille vraiment d'aller voir Trépiani, même si certaines me disent on a vu plus intéressant réalisé par Nanni Moretti, mais moi je vous le conseille véritablement.
Les Magnétiques. Dans vraiment tous les derniers films que j'ai vus, je retiendrai Les Magnétiques, que je trouve vraiment très intéressant. Dans le viseur, qu'est-ce qu'on aurait pour la semaine qui vient dans le viseur?
Venant de l'autre côté de l'Espagne, on a forcément les films de Pedro Almodovar, donc qui va sortir cette semaine.
Avec Pénélope Fillon. Ah non, Pénélope Fillon, elle joue dans un autre tragédie en ce moment, c'est Pénélope Cruz,
oui.
C'est ça? Ah d'accord, oui. Je les confonds. Bien, d'autres films encore, Animal.
Il y en a une qui travaille.
Animal, c'est le documentaire qui est de Cyril Dion, qui avait déjà fait le documentaire Demain. Et ça a l'air quand même très intéressant.
Il y a le film de la famille Attal aussi que je voudrais.
Ça s'appelle Les choses humaines.
Les choses humaines.
C'est
oui.
Ça. Tu as raison. Quand tu dis la famille Attal, c'est le père réalisateur, la petite Gainsbourg Charlotte et le fils.
Eh oui.
D'accord.
Il n'y a pas la grand-mère.
et puis, j'ai toujours pas vu Suprême, le biopic de NTM.
Tu nous en parlera certainement la semaine prochaine.
Tu n'avais pas un film iranien aussi à conseiller?
Oui. Il paraît que Le Diable n'existe pas. Ours d'or ou d'argent, dernier festival de Berlin.
Donc vous voyez, on aura encore plein de choses à vous raconter dans Movies numéro 6. En attendant, vous pouvez retrouver Movies numéro 5 en podcast, bien sûr, dès samedi. Et n'hésitez pas à en parler à des amis qui aiment le cinéma.
Merci.